RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madinier.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, les universités en première ligne dans la contestation contre la guerre à Gaza. Malgré un débat pour l'apaisement et une réunion avec la ministre, la mobilisation continue, notamment à Sciences Po Paris. On y revient dans un instant. L'Assemblée nationale lance aujourd'hui une commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. Et puis, nous questionnerons le vote des jeunes ce soir dans notre long format à quelques semaines des élections européennes. Comment trouver l'équilibre dans le débat sur la guerre à Gaza entre maintien des cours et de l'ordre public et préservation de la liberté d'expression? C'est la question qui préoccupe les universités en France comme aux États-Unis ces derniers jours. Les mobilisations étudiantes pro-palestiniennes entamées à l'université de Columbia il y a 10 jours se répandent à travers tous les campus américains. Et la semaine dernière, c'est Sciences Po Paris qui a donné le coup d'envoi des manifestations étudiantes en France. Et c'est à Sciences Po justement aujourd'hui que se tenait un débat pour essayer de chercher l'apaisement, Melchior Gormand.
Un débat dur avec des prises de position assez claires et beaucoup d'émotions. C'est ce que résume l'administrateur de Sciences Po, Jean Bassère. Il assure avoir pris des engagements pour réfléchir à une doctrine commune sur la prise de position politique et pour établir un plan afin de définir les règles du débat. Mais pas de quoi satisfaire les étudiants qui se sont mobilisés ces derniers jours. 300 d'entre eux ont planté des tentes devant la Sorbonne tout à l'heure. À Sciences Po Paris, certains ont entamé un sit-in. Et une élève a commencé à 14h une grève de la faim. En cause notamment les liens entre la grande école française et des universités israéliennes. Des liens que certains étudiants remettent en cause. Mais la question a été écartée par Jean Bassère.
On a pris des positions assez fermes sur certains sujets. Notamment, j'ai refusé très clairement la création d'un groupe de travail qui était proposé par certains étudiants pour investiguer nos relations avec les universités israéliennes et même des entreprises qui sont des partenaires financiers.
Et c'est une revendication que l'on retrouve par exemple sur le campus de Columbia aux États-Unis, où les jeunes exigent que leur université privée arrête toutes ses relations avec des mécènes ou entreprises liées à Israël.
Merci Melchior. Et dans le même temps aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a rencontré les présidents d'université. Ces derniers s'engagent, je cite, à faire usage de toute l'étendue des pouvoirs que leur confère le Code de l'éducation en matière de maintien de l'ordre public dans leur établissement. 30 à 40 milliards de dollars, c'est le coût estimé pour la reconstruction de la bande de Gaza, coût estimé par l'ONU aujourd'hui. Selon les Nations Unies, 72% des bâtiments résidentiels de l'enclave sont entièrement ou partiellement détruits. Et dans ce contexte, la réponse du Hamas pour un accord de trêve se fait encore attendre. Les négociations portent sur 40 jours de cessez-le-feu associés à des libérations d'otages et de prisonniers. Dans le même temps, Emmanuel Macron persiste et signe. Il n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Le chef de l'État s'est exprimé dans le journal britannique The Economist. Si les Russes devaient aller jusqu'à percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, on devrait légitimement se poser la question, a souligné le président français dans l'interview. Carla Bruni-Sarkozy, auditionnée par la police aujourd'hui, l'épouse de l'ancien président a été entendue comme suspecte dans l'enquête portant sur la rétractation de Ziad Takieddine. Cette affaire est en fait liée à celle du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, principal accusateur dans le dossier des fonds libyens. La volte-face en 2020 de Ziad Takieddine intéresse les enquêteurs. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a lui-même été inculpé dans ce volet de l'affaire. On entre dans le temps de l'action. C'est par ces mots que la députée Francesca Pasquini justifie le lancement en France d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. La création de cette commission a été votée à l'unanimité. Elle répond notamment à la demande de l'actrice Judith Godrèche. En plus d'évaluer la situation, elle devra identifier les mécanismes. C'est ce que nous explique la députée Francesca Pasquini.
Le premier paramètre, c'est Et ce rapport quand même au corps dans l'industrie du cinéma, avec les castings, voilà, ce rapport particulier qui existe à la fois dans tout le domaine du spectacle, mais aussi dans le domaine de la mode. Et puis, on définit souvent, par exemple, l'industrie du cinéma comme une grande famille. Il y a cet univers d'Omerta qui a toujours existé et qui a couvert ces violences. Tout le monde est au courant, ça a toujours existé. Et puis là, en fait, on arrive dans un moment de la société où... ce n'est plus acceptable et où il y a de plus en plus de victimes et de voix qui s'élèvent, et ce, dans tous les domaines. Ce que les victimes dénoncent ne doit pas juste rester une parole parmi d'autres. On doit y apporter une réponse de la société, une réponse politique.
En bref, la CGT des éboueurs de Paris dépose un préavis de grève pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. Ils espèrent obtenir une augmentation salariale ainsi qu'une prime exceptionnelle. Et puis en sport sur les terrains, ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui fait face à son destin européen en foot. En Ligue Europa, l'OM défie Bergame pour les demi-finales. Allez. Je vous le disais, à l'occasion des élections européennes du 9 juin prochain, nous nous penchons dans notre long format ce soir sur le vote des jeunes. Et c'est avec vous, Suzanne Marion, bonsoir.
Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous.
Les jeunes sont souvent présentés dans le débat public comme des citoyens apathiques politiquement, désintéressés, voire même désengagés. Mais ce tableau n'est pas tout à fait fidèle, Suzanne.
Alors pour commencer, il y a tout de même un fondement à cette image qu'on a des jeunes. Selon les sondages d'opinion, seuls 32% d'entre eux sont certains d'aller voter le 9 juin. C'est 13% de moins que la moyenne générale. Les raisons principales de cette abstention sont que les jeunes trouvent que les listes politiques ne représentent pas leurs opinions et que voter ne changera rien à leur quotidien. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'iront pas voter que l'on doit conclure que les jeunes sont désengagés. C'est ce que soutient le sociologue Laurent Lardeux. Il est chargé de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Ce sont deux choses différentes, deux tendances croisées finalement qu'on observe. Plutôt une baisse de la participation institutionnelle et à l'inverse, d'autres moyens de participer, de s'engager dans des formes moins conventionnelles, notamment à travers des associations, mais aussi pas forcément des associations reconnues en tant que telles, également à travers des collectifs, comme ce qu'on peut voir notamment sur les questions du climat. Donc voilà, il y a quand même un niveau d'engagement qui reste important du côté de la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas interpréter ce niveau de participation, mais aussi de façon plus générale la participation à des partis politiques ou à des syndicats, comme révélateur finalement du niveau d'engagement ou comme des preuves de citoyenneté de la jeunesse, puisqu'on peut voir que malgré tout, ce niveau de participation reste important, notamment dans des cadres associatifs.
L'engagement des jeunes peut aussi être plus spontané, sous la forme de boycott de marques ou d'expressions sur les réseaux sociaux. Par exemple.
Alors certes, une autre forme d'engagement, mais tout de même, l'abstention massive reste une préoccupation, Suzanne.
Oui, notamment pour le syndicat étudiant LAFAGE qui se mobilise pour le vote des jeunes. Mi-avril, LAFAGE a organisé une journée dédiée aux enjeux européens avec notamment un grand oral d'une partie des candidats. Les candidats des listes des principaux partis de gauche et de la majorité étaient présents pour répondre aux questions du syndicat et des étudiants. Avant le début de ce grand oral, j'ai rencontré des jeunes qui étaient installés dans l'amphithéâtre, qui d'ailleurs étaient bien remplis. Ils font partie de ces 32% certains d'aller voter, mais pourtant les enjeux de cette élection ne sont pas très clairs pour eux, notamment parce qu'ils ne connaissent pas bien les institutions européennes. Écoutez les réponses de Juliette et Manon, étudiantes en orthophonie, quand je leur ai demandé quelle image elles ont de l'Union européenne.
Moi, l'image que j'aurais, c'est loin. Enfin, on ne sait pas forcément ce qui se passe, on ne se sent pas forcément super concerné. Et du coup, c'est pour ça que potentiellement, on ne s'y intéresse pas en dehors des périodes d'élection, parce que juste, je ne sais pas ce qui se vote dedans et je connais mal les instances. Et du coup, bah oui, enfin, vachement cette image de distance, en fait.
Hyper loin, hyper abstrait, hyper flou, parce qu'on n'a pas vraiment de connaissances là-dessus. Donc, ouais, pareil.
Si elles font la démarche de s'intéresser aux élections, ce n'est pas une préoccupation dans leur groupe d'amis.
Moi, j'ai jamais entendu aucune de mes copines parler des élections européennes ou de quoi que ce soit relatif à l'Union européenne comme étant quelque chose qui les intéresse, quoi.
Je pense qu'il y en a même la plupart qui savent même pas qu'ils doivent voter le 9 juin.
Mais si les jeunes ne sont pas intéressés, c'est aussi parce que la campagne électorale n'arrive pas à les atteindre, comme décrypte Laurent Lardeux.
Les campagnes électorales se passent beaucoup sur les marchés, beaucoup aussi à la télévision, à la radio. Donc finalement, dans des lieux, des espaces, des moyens de communication qui ne sont pas ceux nécessairement toujours utilisés par les nouvelles générations. Donc ça interroge effectivement sur le souhait ou pas des partis politiques comme des élus de capter finalement ce jeune électorat, parce que ces outils-là voilà, ne sont pas ceux qui sont les plus utilisés par les jeunes. Donc il y a les outils de communication, il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne les programmes électoraux. On sait qu'il y a une préoccupation majeur sur la question d'environnement, sur la question de justice sociale, sur la question des droits des minorités à différents niveaux. Donc autant de sujets sur lesquels finalement la campagne ne va pas toujours, en tout cas on ne voit pas au cours de cette campagne ces sujets qui sont nécessairement abordés, ils restent peu audibles.
Autre élément intéressant, Suzanne, c'est que la seule figure qui pour le moment réussit vraiment à séduire un électorat jeune, c'est Jordan Bardella. 31% des moins de 25 ans comptent voter pour la liste Rassemblement National.
Oui, selon un sondage Ipsos réalisé en avril, c'est le parti qui progresse le plus chez les jeunes et se retrouve donc en tête dans leurs intentions de vote. En 2019, c'était les écologistes qui avaient majoritairement séduit les 18-24 ans. Lors du dernier scrutin européen, il n'était que 15% à avoir voté pour le Rassemblement National. Le parti devrait donc doubler son pourcentage dans cette tranche d'âge. Christelle Craplet est directrice de BVA Opinion. Elle a rédigé une note pour la Fondation Jean Jaurès sur les jeunes et les élections européennes. Pour elle, c'est le résultat d'une stratégie payante du parti et de sa tête de liste.
C'est un rattrapage. Il y avait déjà des jeunes qui votaient pour le RN en 2019, mais ils étaient très en deçà de la moyenne. Aujourd'hui, en fait, ils sont dans la moyenne. C'est le Rassemblement National qui a réussi à élargir sa base et à combler un certain nombre de déficits là où ils avaient moins de succès, donc auprès des plus jeunes, mais aussi des plus âgés ou des catégories sociales aisées. Le Rassemblement National arrive désormais à toucher toutes les catégories de population et les jeunes ne font pas exception. La stratégie sur les réseaux sociaux de Jordan Bardella est quand même manifestement très efficace auprès de cette population. Sa présence sur TikTok, le fait qu'il ait énormément d'abonnés, a probablement contribué à le faire identifier, à émerger et faire que c'est une personnalité politique qui vraiment est bien connue des jeunes, ce qu'aucun autre candidat ne peut dire. Il aborde aussi des thématiques qui, pour une partie de la jeunesse, celle qui vote, celle qui est mobilisée, leur parle.
Mais ce rattrapage du Rassemblement National, un parti très critique de l'Union européenne, est un paradoxe chez les jeunes, une classe d'âge pourtant très europhile. Selon l'Eurobaromètre, sondage réalisé par le Parlement européen, 48% des 15-24 ans ont une image positive de l'Union européenne, soit 11 points de plus que la moyenne nationale. Mais selon une analyse possible dont m'a fait part Christelle Craplet, les jeunes les plus favorables à l'Union européenne ne sont pas ceux qui se mobiliseront le plus le 9 juin. Une preuve de plus que cet électorat n'est pas tout à fait homogène.
Elle nous est bien notée. Merci beaucoup Suzanne Marion. Et c'est un dossier à retrouver en intégralité sur rcf.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Nathan Faure qui était à la technique ce soir. Bonne soirée à tous.